Alors Noël approche et ce matin à l'école du dimanche, on se posait la question de savoir si Noël est une fête païenne. Alors effectivement, Noël a son origine sur l'appropriation, l'acculturation d'une fête chrétienne sur un événement qui était initialement une fête païenne, et beaucoup décrit l'occasion que c'est de fêter Noël. Ce matin, ce qu'on a dit à l'école du dimanche, c'est qu'on s'intéresse à Noël, nous autres, exclusivement dans la manière où Noël va révéler quelque chose qui reflète l'incarnation de Jésus-Christ, en quelque sorte. Et si Noël approche, Noël, c'est également une formidable occasion de se souvenir de l'humiliation de notre Seigneur, de son abaissement et de la manière dont il s'est incarné pour notre salut. Jésus-Christ, c'est ce Dieu fait homme, et je vous rappelle cette doctrine centrale de la foi chrétienne qu'on appelle l'union hypostatique. Peut-être que cette union hypostatique ne vous dit rien, mais il s'agit tout simplement de l'union des deux natures divines et humaines en une seule personne. C'est un mystère dont les théologiens ont pu définir les contours, mais ils n'ont certainement pas pu saisir l'intégralité de la profondeur de cette doctrine. Et alors que nous sommes en chemin vers Noël, il est bon que nous nous penchions ensemble sur cette doctrine. Alors, on a pris la décision, vous le savez peut-être pas encore, de nous tourner vers l'évangile de Marc à la rentrée. Ce sera un évangile qui va nous guider vers une meilleure connaissance de qui est Jésus. C'est ce qu'on va faire à partir du mois de janvier. Et je me suis dit, peut-être que ça serait bien, puisqu'on parle de Jésus à Noël, d'avancer un peu cette série et d'essayer en quelque sorte de pouvoir découvrir ce que les évangiles nous révèlent de cette incarnation de Jésus-Christ. Le seul problème, c'est que l'évangile de Marc rentre directement dans le vif du sujet. Il est très intéressé par le ministère de Jésus. Il est beaucoup moins intéressé par l'enfance et même par l'origine humaine de Jésus. À vrai dire, il n'y a que deux évangiles de l'enfance. Ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, ce sont les textes qui traite de l'enfance de Jésus, et vous les retrouvez exclusivement dans Matthieu 1 et 2 et dans Luc 1 et 2. Et ce que je vous propose, c'est qu'au mois de décembre, on puisse ensemble regarder les deux premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Et donc, durant les trois prochaines semaines, on va naviguer ensemble dans ces deux premiers chapitres afin de regarder d'une part l'origine de Jésus, mais aussi de méditer sur sa naissance et ce qu'elle signifie pour nous. Et enfin, on regardera également quelques éléments significatifs qui sont arrivés alors qu'il était encore un petit bébé. Et on a beaucoup de petits bébés dans cette église, donc c'est aussi pour nous une manière de matérialiser en quelque sorte ce qu'est devenu Jésus pour notre salut. Alors, on va commencer aujourd'hui par nous intéresser à son origine. Et cette semaine, on va lire ensemble la généalogie de notre Seigneur. Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Matthieu 1, versets 1 à 17. Matthieu 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pérets et Zara, Pérets engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Esaïe, Esaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Et Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Tsadok. Tsadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Prions. Seigneur éternel, nous te prions de nous aider à comprendre des textes comme celui-ci, qui sont des généalogies, des textes qui sont complètement hermétiques à nos yeux, où on se dit, mais pourquoi ce style de texte a été placé dans les Écritures alors que nous avons besoin de concret, nous avons besoin de pratique pour comprendre comment nous devons mener notre vie par rapport à toi. Seigneur, aide-nous à saisir la pertinence d'un texte comme celui-ci. Aide-nous à comprendre pourquoi dans ta sagesse, tu as permis qu'il y ait des textes comme cela qui viennent à la fois introduire l'évangile de Matthieu, mais qui finalement émaillent l'ensemble de la révélation de la Bible. Seigneur, donne-nous beaucoup de sagesse et illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire et comment tu veux nous instruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors cette liste, elle est bien sûr sélective, cette liste de noms. Heureusement, c'était déjà suffisamment difficile pour vous d'écouter cette longue succession de noms. Je sais très bien que certains d'entre vous, lorsque vous arrivez au début du livre des Chroniques, vous voyez 9 chapitres de généalogie, presque pas de viande à se mettre sous la dent spirituellement, et vous vous dites « Allez, je vais sauter ». C'est ainsi que certains d'entre vous ont des pages entières de leur Bible qui sont encore collées, généralement les 9 premiers chapitres des Chroniques, mais aussi le livre du Lévitique et quelques autres qu'on ne mentionnera pas ici. Alors bien sûr, ici, hein, 14 générations pour chaque séquence. Il y a 3 séquences. Une séquence qui commence avec Abraham, une autre qui commence avec David, et puis une autre qui intervient après la déportation de Babylone. Entre chacune de ces séquences, il y a 14 générations. Une petite difficulté sur la dernière parce que c'est 13, mais là n'est pas le sujet. Ici, on a réellement le sentiment que tout cela est agencé avec un but, avec un agenda théologique. Le but de Matthieu, ce n'est pas l'exhaustivité, il a un agenda théologique, il a un but précis, il a un message à nous véhiculer avec cette généalogie, et cette généalogie, elle nous offre au moins 3 leçons. Et la première leçon que cette généalogie nous offre, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. C'est exactement ce que ces 3 séquences de cette généalogie expliquent. 3 séquences, Abraham, David, l'exil, nous rappellent que premièrement, il tient ses promesses, même les plus anciennes, celles faites à Abraham notamment. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », dit-il lors de son appel en Genèse 12, verset 3. Ce n'est pas du tout un hasard si Matthieu ouvre son évangile avec Abraham, qui est une figure importante pour son lectorat. Les lecteurs de Matthieu étaient essentiellement des Juifs. Il tenait le personnage d'Abraham et ses promesses en haute estime, et il prétendait avoir Abraham pour père. D'ailleurs, Jésus les met en garde, il leur dit « Arrêtez de vous glorifier, arrêtez de dire « J'ai Abraham pour père ». Moi, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. » Donc, ils étaient réellement attachés à la personne d'Abraham, et notamment aux promesses qui avaient été faites à Abraham dans ce chapitre 12 de la Genèse. Il y avait cette promesse d'une descendance, il se considérait comme cette descendance, il y avait la promesse d'un pays, il y avait la promesse d'un Dieu qui le garderait. Ces choses-là faisaient réellement partie de l'alliance, le prototype d'alliance qui commençait à sceller avec Abraham. C'est avant tout cette promesse, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une promesse qui implique la multiplication et la bénédiction. Et lorsqu'elle est détaillée un peu plus tard, notamment dans Genèse 15, c'est pour signifier à Abraham que sa postérité sera indénombrable. Il lui dit « Regarde, compte les étoiles du ciel si tu le peux, ainsi sera ta postérité ». Ce n'est pas à dire que c'était une correspondance scientifique où il fallait compter les étoiles et savoir qu'il aurait autant d'enfants. Il lui dit simplement « Le fait même que tu ne puisses pas compter les étoiles est la démonstration que cette postérité que tu auras sera elle aussi tellement grande qu'elle est indénombrable. » Donc l'idée d'entrée de jeu dans cette généalogie en mentionnant Abraham d'emblée, c'est « la multiplication. J'avais même envie de dire, j'ai noté dans mes notes, hashtag, vous voyez, en québécois, je crois qu'on dit carré, multiplication, vous voyez. C'est la multiplication qui est en jeu ici. Et l'évangile de Matthieu lui-même est encadré par ses promesses de multiplication, depuis cette mention d'Abraham dans cette généalogie, jusqu'au dernier verset de Matthieu, qui est ce mandat missionnaire de Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il vient de leur prescrire ? De faire des disciples. Vous êtes devant un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle de l'itération. Chaque disciple est appelé à faire des disciples. Et si tous les disciples avaient fait des disciples depuis le commencement de l'histoire de l'Église, ça ferait longtemps que le monde aurait entendu dans son intégralité parler de l'Évangile, que Matthieu 24, 14 se sera accompli, que cette bonne nouvelle du royaume aurait été prêchée à toute la création. Et alors la fin serait déjà arrivée, n'est-ce pas ? Voilà un peu l'idée que l'on retrouve ici dans cet évangile de Matthieu avec ce mandat missionnaire. C'est comme si Matthieu disait à ses lecteurs dès le début de l'évangile, regardez, vous vous souvenez de cette promesse faite à Abraham, cette promesse de bénédiction qui irait vers toutes les familles de la terre. Eh bien, la voici qui se met en œuvre en Jésus-Christ. Et à travers du mandat missionnaire de la fin de l'évangile, Dieu appelle les membres de sa famille à venir le rejoindre. D'emblée, c'est ce que nous voyons au début de cette généalogie. Il tient même ses promesses les plus anciennes. Il tient même ses promesses les plus éclatantes. La mention de David au verset 6, expressément qualifié de roi au passage, fait écho non seulement à ce qu'on appelle l'alliance davidique, si vous voulez relire les textes qui parlent de l'alliance que Dieu a fait avec David, relisez chez vous 2 Samuel 7, mais également au grand nombre, à la pléthore de prophéties messianiques qui lui est associée. Vous avez un certain nombre de textes dans l'évangile de Matthieu, comme par exemple l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ou la mention, la citation, l'allusion à de nombreux psaumes davidiques que Jésus s'applique à lui-même pendant son ministère, qui vont marquer cette connexion entre le roi David et son alliance, son caractère royal, et Jésus lui-même qualifié de roi. Il faut comprendre qu'au moment de la naissance de Jésus, probablement, c'était le moment où, dans cette culture juive, dans cette Palestine du 1er siècle, jamais dans l'histoire de ce peuple, il n'y avait eu des espérances messianiques aussi poussées, aussi abouties. Et ils étaient notamment marqués par la figure d'un homme qui s'appelait Judas Maccabée. Alors, rien à voir avec un mort, c'est plutôt la référence au livre des Maccabées, pour ceux qui connaissent ce texte apocryphe, mais qui donne néanmoins des informations historiques qui sont importantes. Judas Maccabée vivait 2 siècles avant Jésus-Christ, et il était vu comme une sorte de figure messianique associée à une libération nationale. Nul doute, et inutile de vous dire que cet espoir avait été déçu. Judas Maccabée était mort, la révolte de sa famille avait été matée, et les Juifs attendaient encore un profil de grand libérateur guerrier comme celui-là sur le modèle de David, ce roi victorieux, ce roi qui conduisait les armées d'Israël vers une victoire guerrière. Et il prenait les prophéties messianiques à cette période, il les chérissait, il les méditait. Et ce n'est pas étonnant lorsque vous voyez ces mages qu'on verra un peu plus loin au chapitre 2 qui s'approchent de Jérusalem au moment de rencontrer l'enfant Jésus qui avait probablement presque 2 ans à ce moment-là. Eh bien, tout de suite, Hérode tilte. Il sait que ça fait écho à des espérances messianiques, il sait que ça fait écho à des espérances royales, et il se sent en danger. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir des juifs spécialistes, des docteurs de la loi, et ceux-ci, immédiatement, sont capables de lui expliquer par les prophéties messianiques où est-ce que ce Messie devait naître. Tout simplement parce que les espérances messianiques étaient à leur apogée, à leur paroxysme. Et en mentionnant David, dans cette généalogie, Matthieu dit à ses lecteurs, « Eh bien, le voici enfin, ce roi semblable à David que vous attendiez. C'est ce Jésus-là, c'est lui que vous étiez en train d'attendre. » Donc même les promesses les plus éclatantes comme ces prophéties, comme ces prophéties messianiques royales trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Et puis, il tient ses promesses, notre Dieu, en dépit des accrocs de l'histoire. Et c'est très important de manière pratique pour nous aujourd'hui. Parce que peut-être vous êtes découragé en venant au culte aujourd'hui. Et peut-être vous vous dites, où il est ce Dieu qui fait tant de promesses que je vois tarder à s'accomplir dans ma vie? Où est-il ce Dieu qui m'assure d'être mon soutien quand je souffre ou quand je passe par des difficultés ou quand ma famille m'abandonne ou quand je suis malade ou quand je suis dans des situations incroyables? Et les Juifs pouvaient bien se poser cette question-là. À vrai dire, regardez ce que fait la généalogie. Elle souligne un fait tragique, catastrophique pour les Juifs de l'époque. C'est cet exil à Babylone. À partir du moment où le royaume du sud, Juda, a été déporté à Babylone en 587 avant Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, Israël n'a pas connu d'existence indépendante jusqu'à ce qu'elle retrouve plus ou moins ses frontières en 1948, c'est-à-dire extrêmement récemment. Pour les Juifs du 1er siècle, c'était une catastrophe. L'exil était synonyme d'asservissement, d'esclavage, et à l'époque même où ils étaient en train de souffler et de soupirer sous la domination romaine, ils se souvenaient que cette domination n'était qu'une parmi d'autres parce que cela s'était enchaîné depuis l'exil à Babylone. Cet exil à Babylone, c'est l'événement le plus catastrophique, cataclysmique de l'histoire d'Israël. C'est comme si Israël avait presque été rayé de la carte et il fallait juste une poussière de la miséricorde de Dieu pour les maintenir à l'existence. Mais cette généalogie, qui comprend d'ailleurs au passage de nombreux rois de Juda, quand vous la regardez, nous montre que la lignée de Jésus-Christ, la lignée du Messie, ne s'est jamais éteinte. Rien, chers amis, ne peut faire obstacle aux promesses de Dieu. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplira. Et s'il l'a fait pour la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il peut le faire jusque dans les moindres détails de ses promesses. Vous pouvez croire sa parole. C'est ici ce que souligne Matthieu. Même avec les accrocs de l'histoire, il a accompli sa promesse d'un Rédempteur qui allait venir, celle qu'il avait promise dès Genèse 3,15, dès la chute d'Adam et Ève. La voici mise en œuvre maintenant. Et le fait qu'il tienne ses promesses les plus anciennes, qu'il tienne ses promesses les plus éclatantes, qu'il tienne ses promesses en dépit des accrocs de l'histoire, ça nous conduit directement à une application, mais vraiment très simple pour nous. Nous pouvons croire aux promesses de Dieu. Il les accomplira, même celles qui nous paraissent lointaines, même celles qui nous paraissent complètement insignifiantes. Et nous devrions nous souvenir, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, que nous nous sommes rassemblés en ce dimanche, que notre vie tout entière est sous la garde des promesses de Dieu, car sans elles, nous ne sommes rien. Elles sont la garantie que nous serons un jour réunis à Christ, lui qui est venu dans le monde, pour accomplir notre rédemption. Ainsi donc, notre Dieu tient ses promesses et c'est la première grande leçon que nous pouvons tirer de ces lignes généalogiques. La deuxième leçon de cette généalogie, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais la deuxième leçon de cette généalogie, c'est que le péché est universel. Oui, chers amis, cette généalogie nous rappelle que le péché est universel. Et en disant cela, je ne prends pas trop de risques, parce que la Bible tout entière atteste que le péché est universel. Et vu sous cet angle, cette généalogie ne détonne pas d'avec le reste des Écritures. L'ensemble des données bibliques rend témoignage de cette universalité du péché. Je vous cite notre confession de foi, la confession réformée baptiste de Londres de 1689. « Puisque Adam et Ève étaient la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère, des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères naturelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur Jésus ne les libère. » Constat dramatique, ô combien vrai que nous pouvons vérifier de manière empirique, de manière pratique et concrète, jour après jour, lorsque nous vivons dans ce monde. Or, dans cette généalogie, il y a un certain nombre de personnes, peut-être même, je devrais dire toutes les personnes, mais certaines en particulier, étaient connues pour leurs péchés grossiers. Et si je devais m'arrêter sur chacune d'entre elles, je pourrais faire plusieurs sermons, rien que sur cette généalogie. Voyons quelques-uns ici. Vous avez Abraham, qui à deux reprises a menti au sujet de sa sœur et puis qui à la fin de sa vie a pris des concubines. On ne comprend pas en fait. À la fin de sa vie, après tout ce qui s'est passé, après toutes les épreuves qu'il a traversées, après toute la manifestation de Dieu qui lui a montré combien il était fidèle, on a juste une mention que Abraham va envoyer ses fils d'un côté puis va prendre des concubines de l'autre. Quant au fait de dire à propos de sa femme « c'est ma sœur », c'est vrai que c'était sa demi-sœur, mais regardez les conséquences. Oui, c'est vrai, Abimélec a été informé en rêve que c'était sa femme et il n'a pas commis d'impair avec elle. Néanmoins, en ce qui concerne Pharaon, je crois que le texte ne laisse que peu de doutes quant à ce qui s'est passé. Pharaon a réellement couché avec la femme d'Abraham à cause de mensonges comme celui-ci, parce qu'il avait peur pour sa vie. Catastrophique. Abraham, donc, le père des croyants, n'est-ce pas ? Qui se retrouve dans une situation comme celle-ci. Isaac, qui fait exactement la même chose avec sa femme et qui prétend que sa femme est sa sœur. Jacob, où je pourrais vous citer une longue liste de péchés concernant Jacob, dont le nom même signifie supplanteur, à tel point qu'à la fin de sa vie, il pouvait dire à Pharaon, les années de ma vie ont été difficiles. Oh, Dieu l'a fait passer à l'école des difficultés et des épreuves. On pourrait aussi mentionner Judas, dont on connaît l'histoire, Judas qui a vendu son frère Joseph, qui s'était associé aux Cananéens et qui apparemment fréquentait de manière régulière les services de prostituées, à tel point que sa belle-fille le connaissait très bien, et quand elle a voulu le piéger, la seule chose qu'elle a eu à faire, c'est de se déguiser en prostituée le long du chemin. La première qu'il a vue, il a voulu aller avec. N'est-ce pas là encore le fait de souligner un péché particulièrement grossier que tout le monde savait ? Je mentionne aussi David, vous connaissez les hauts faits de David, mais également ses chutes les plus terribles. D'ailleurs, il est mentionné aux côtés de Bathsheba, la mère de Salomon, mais celle-ci, elle n'est pas appelée Bathsheba, elle est appelée comment ? La femme d'Uri, comme pour souligner son péché d'avoir été volée la femme de l'autre et d'avoir tué l'autre pour cacher son crime. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Jusqu'au bout, David a été confirmé dans sa royauté, malgré son péché. Et on le voit trembler, on le voit avoir perdu son autorité, on le voit subir les conséquences de sa faute jusqu'à la fin de son existence. Mais regardez, regardez simplement l'universalité du péché en lui. Et puis vous avez Manassé, qui est de l'aveu même de l'auteur du livre des rois, le pire roi qu'Israël a connu. Il a versé le sang des prophètes, il a répandu les cultes idolâtres partout, jusqu'à cette grande repentance qui ne nous est décrite que dans le livre des chroniques. Cette liste non exhaustive, et la liste que j'en tire sur cette liste est elle-même non exhaustive, eh bien, est encore plus impressionnante lorsque l'on considère que Matthieu a choisi chaque nom avec soin pour sa généalogie, parce qu'il a compté 14, 14, 14, il a fait des choix, il a voulu ces personnes-là dans sa liste, et il a pris apparemment les pires exemples de ce que l'Ancien Testament pouvait proposer en termes de grossièreté, de péché notoire. Comme s'il voulait pointer directement, qu'il voulait indiquer que Christ descend d'une lignée pécheresse comme celle-ci. L'exil, là encore, est encore un paradigme de jugement pour le péché. C'est parce qu'ils avaient mis le comble à leur péché que les habitants de Jérusalem sont transportés à Babylone. Rappeler l'exil dans une telle généalogie, avec de tels exemples de péché, c'est rappeler le péché collectif, la faillite collective d'une nation. Mes chers amis, considérons ensemble, sérieusement, le péché qui a rendu l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité nécessaire. Ce péché qui l'a également cloué sur le bois. Ces transgressions dont il s'est chargé à cause duquel il a été blessé. Nous ne sommes pas si différents des personnages de cette liste. Non seulement de manière qualitative, chaque péché finalement procède de la même essence. Certes, il y a des conséquences différentes d'un point de vue quantitatif. C'est sûr que certains péchés grossiers ont plus d'impact que les choses secrètes que vous faites chez vous. Mais j'ai envie de vous dire, les péchés secrets sont pires que les péchés grossiers dans ce sens qu'ils sont cachés, que personne ne les voit et qu'il est beaucoup plus dur d'avoir des causes externes qui vont vous pousser à la repentance. Mais l'essence même qui conduisait Abraham à donner sa femme en pâture au Pharaon se trouve dans votre cœur. L'essence même de l'idolâtrie de Manassé travaille au fond de vous dans les moindres tentations que vous expérimentez. Et vous savez cela, vous le vivez au quotidien, parce que vous connaissez la puissance de l'aiguillon du péché quand les choses que vous aimez secrètement, que vous savez que vous ne devriez pas aimer, mais que votre nature chérie viennent vous prendre en défaut, et chaque fois que vous êtes tenté, vous vous dites « encore toi ». Vous connaissez cette propension naturelle qui vous incline loin de Dieu plutôt que vers ses commandements, de sorte que vous avez envie de prier avec David, « Incline mon cœur vers tes commandements, parce que si c'était à l'état naturel, je ne pourrais pas me tourner vers tes commandements. » Nous ne pouvons rien apporter à Dieu qui puisse le satisfaire. Tout ce que nous lui apportons est empreint de péché. Apportez-lui n'importe quelle offrande, elle sera gangrénée par cette tumeur cancéreuse spirituelle que vous avez en vous. Vous ne contribuez en rien à votre salut, à l'exception du péché qui l'a rendu nécessaire. Ça, c'est Jonathan Edwards. Vous ne contribuez en rien à votre salut, à l'exception de votre péché qui l'a rendu nécessaire. Et vous savez quoi, pour les premiers lecteurs de l'évangile de Matthieu, juifs qui tiraient une gloire de leurs ancêtres, qui regardaient généralement les généalogies comme un moyen d'affirmer la pureté d'une lignée, voir celui qui est présenté comme la source de leur salut descendre d'une telle lignée royale et corrompue, c'était comme leur dire « Votre lignée est pourrie, foutue, mais Dieu a donné à travers elle le moyen par lequel vous pouvez accéder à lui. » Ce moyen de rédemption. Et cette deuxième leçon, ce péché universel, conduit naturellement à cette troisième leçon qu'offre cette généalogie. Troisième et dernière leçon, beaucoup plus encourageante, que cette généalogie nous offre, c'est qu'il y a grâce et miséricorde en Jésus. Chers amis, il y a grâce et miséricorde et restauration en Jésus-Christ. Parce que Christ, tout d'abord, est le Messie que toutes les personnes de cette généalogie attendaient. Alors nous, on passe rapidement sur le sens de Jésus-Christ, mais essayez de comprendre ce que ça signifiait pour les personnes du 1er siècle qui lisaient cette généalogie. Jésus, c'est Josué, en fait. On l'a traduit comme ça dans notre langage moderne, mais Josué, c'est tout simplement Dieu sauve, Yeshua. Et Christ, c'est la traduction grecque de Machia, c'est-à-dire loin. Il est ce grand Dieu qui sauve. Il est l'accomplissement de toutes les prophéties qui annonçaient un homme réglant une fois pour toutes le problème du péché, depuis Genèse 3,15 jusqu'aux prophéties messianiques que vous retrouvez dans Zacharie. Il est cet accomplissement-là. Il est à la fois Dieu, il est à la fois homme, il est ce grand Dieu-homme, celui qui est nécessaire au salut de l'humanité déchue. Toutes les personnes de cette généalogie, je crois, connaissaient leur déchéance et leur péché, du moins en tout cas celles dont l'histoire est mentionnée en détail dans les Écritures, car toutes vont être confrontées par Dieu pour leur péché. Regardez la repentance de Manassé, par exemple. Et l'idée, c'est qu'il y a grâce pour le pire des pécheurs. Considérez les individus que nous avons nommés dans cette liste. Considérez la grossièreté de leurs péchés. Maintenant, considérez les vôtres. Sans doute bien cachés. Quelle différence y a-t-il entre eux et vous? C'est pour un seul péché qu'Adam a été chassé du paradis. Et vous y rentreriez, vous, avec le fardeau de vos péchés quotidiens? Vous ne valez pas mieux que Jacob, vous ne valez pas mieux que David, vous ne valez pas mieux que Manassé. Et le message de cette généalogie, c'est qu'il y a une grâce pour le pire des pécheurs, y compris pour vous. J'aime plaisanter en disant qu'il n'y a qu'une seule parole de la Bible avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis moi le premier, dit Paul. Et moi je réponds, non Paul, c'est pas vrai, c'est moi le premier. Et je crois qu'on pourrait tous s'approprier ce verset et dire exactement la même chose. Il a donné sa vie pour le pire des pécheurs qui l'acceptent. Il s'est offert en sacrifice pour même le pire des larrons qui veut se tourner vers lui. Voilà la réalité. Et cette grâce, chers amis, cette grâce qui est présentée sous nos yeux, qui fait écho et qui surpasse, qui surabonde, ce péché que nous avons mentionné, qui est tellement grand, cette grâce, elle atteint les extrémités de la terre. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais cette portée missionnaire, cette portée multiplicative de la grâce est inscrite comme dans l'ADN de l'évangile de Matthieu. Mais dans cette généalogie, c'est un élément particulier qu'il nous faut souligner pour en parler. Et cet élément particulier concerne la présence de femmes dans cette généalogie. Déjà, c'est extrêmement rare que des femmes soient mentionnées dans une généalogie qui généralement servait à maintenir la succession d'une famille et à montrer sa lignée. Vous savez certainement que dans l'Ancien Testament, il y avait eu un incident où une famille risquait de disparaître parce qu'il n'y avait pas d'héritier mâle. C'était la famille de Tselophshad. Et Moïse s'était tourné vers Dieu pour que Dieu légifère en ce qui concerne les filles de Tselophshad qui avaient exceptionnellement eu le droit de récupérer les terres et donc d'apparaître quelque part dans la généalogie. D'ordinaire, les généalogies juives, je l'ai dit, servent à souligner la pureté des ancêtres. Donc, déjà, la succession des pécheurs notables qu'on a relevés, on voit que Matthieu a d'autres intentions avec ses généalogies, mais d'ailleurs, notez que les quatre femmes qui y sont mentionnées, elles ne font pas exception sur ce point. Tamar, elle s'était déguisée en prostituée pour pouvoir contraindre son beau-père à observer la règle du Lévira, donc du coup, elle a fait en sorte d'obtenir un enfant de lui. Elle l'a fait intentionnellement, alors qu'elle était sa belle-fille. Rahab, on ne sait pas grand-chose sur sa vie d'avant, à part qu'elle était une prostituée. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de plus vieux métier du monde, comme certains le disent. Je ne crois pas que c'est le cas, en tout cas Bible en main. Mais en tout cas, elle était prostituée elle-même. Vous aviez Ruth, qui, même si elle était une femme vertueuse, avait ce défaut d'être moabite. Et vous savez que les moabites étaient eux-mêmes avec une origine terrible, vécue par l'inceste, et qu'ils étaient exclus de l'assemblée de l'Éternel. Et puis enfin, vous avez cette Bathsheba dont on connaît l'histoire. Il est clair que Bathsheba n'a probablement pas été violée. J'ai été d'ailleurs particulièrement choqué de voir comment certains représentants du mouvement MeToo actuellement essayent de complètement détourner le sens de l'histoire de Bathsheba et de dire que Bathsheba, parce qu'elle était obligée de coucher avec un roi, avait été violée. C'est complètement refaire l'histoire. Ce n'est pas vraiment ce qui est présenté sous nos yeux dans le texte de 2 Samuel 11. Mais en plus de ces péchés de ces femmes, ce qui est surprenant, c'est que ces quatre femmes ont toutes des origines païennes ou à minima sont associées à des païens. Tamar était cananéenne, Rahab était également cananéenne, Ruth était moabite, et même s'il est possible que Bathsheba était israélite, c'est débattu, mais son nom en tout cas sonne israélite, eh bien elle était devenue par alliance la femme de Uri, le Hittite, le Hétien. En réalité, le but de Matthieu, et là je vous cite Craig Kinner, a toujours été pour toutes les nations. Et le fait que ces trois ancêtres païens du roi David, ainsi que la mère du roi Salomon, étaient des païens, sont des indices censés nous mettre sur la voie. Ce thème est récurrent dans l'évangile de Matthieu. Des mages d'Orient viennent honorer Jésus, un centurion romain, une femme cananéenne, témoignent d'une foi extraordinaire. Et les compagnons d'exécution de Jésus ont été les premiers à reconnaître, en tant que fils de Dieu, après la croix, qu'il était celui qui devait venir. Tous ces éléments nous conduisent verset après verset jusqu'à l'apogée du livre, dit Craig Kinner, l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors nous l'avons dit, le péché est universel, mais la grâce de Dieu n'a aucune limite. La grâce de Dieu surabonde, elle est universelle, elle couvre le péché, elle atteint les extrémités de la terre. Il y a grâce en Jésus-Christ. Ainsi donc, Dieu tient toujours ses promesses, malgré la noirceur, malgré la profondeur du péché. En lui, tout n'est que grâce. Le péché est universel, sa grâce l'est d'autant plus. Il n'y a pas d'offense si grande que le sacrifice de Christ ne puisse couvrir et payer en totalité. Tous ceux qui se tournent vers lui hériteront d'un plein pardon. Mais considérez la manifestation de cette grâce. Considérez comment Jésus-Christ, Dieu fait homme, a dû s'abaisser, a dû s'humilier, a dû assumer une nature semblable à la nôtre au sein d'une telle généalogie. Et c'est ça le point focal de cette généalogie. Paul nous dit que Christ a revêtu une nature semblable à la nôtre, pas notre nature, on s'entend. Il n'était pas pécheur, mais il a revêtu une nature qui est semblable à la nôtre. En lisant cette généalogie, il y a peu de doute de cela. Christ lui-même est descendu jusque dans la fange, le purin, la fosse à cochons, pour nous en sortir. Il s'est humilié pour nous élever. Il a retroussé ses manches et il est venu lui-même pour nous sauver. Nous avons raison de mettre l'accent sur notre gloire future, les promesses éternelles qui sont associées. Mais souvenons-nous ce que ça a coûté et combien l'abaissement de notre Sauveur est grand. En faisant cela, nous prenons un bon chemin vers Noël en nous souvenant de ces choses-là. Pendant que je vais prier, je vais inviter le groupe à nous rejoindre et on pourra ensuite prendre le chant suivant. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous rappelles. Combien ton pardon et ta grâce, Seigneur, qui nous sont accessibles pleinement et de manière universelle, le sont parce que tu as accepté volontairement de t'abaisser, de t'humilier, de renoncer à ton statut, de ne pas regarder à Dieu comme d'une proie arrachée, de considérer la bassesse et la noirceur du cœur de ceux que tu es venu sauver, Seigneur, et de les sauver malgré tout. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que ta grâce surpasse notre intelligence, tout ce qu'on peut entendre ou comprendre. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que ta miséricorde est infinie. Et cette généalogie simplement nous rappelle combien tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié. Conduis-nous dans cet état d'esprit à mesure que nous nous rapprochons, Seigneur, de cet événement humain de Noël qui nous aide essentiellement à nous souvenir de cette manière dont tu t'es humilié pour nous.